La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
L'Allemagne n'en finit pas de s'interroger sur ce qui s'est passé samedi dernier devant le Reichstag.
Oui, le Reichstag, ce palais qui abrite le Parlement fédéral à Berlin, que l'on sait lourd de références historiques en Allemagne, il a été pris d'assaut samedi soir par quelques centaines de manifestants. Ils ont tenté de pénétrer dans le bâtiment, mais ils ont été rapidement repoussés par une poignée de policiers héroïques. Voilà en gros pour le résumé de la scène que l'on retrouve aujourd'hui encore dans à peu près tous les quotidiens d'Outre-Rhin. Mais ce sont les détails de cette attaque qui interrogent par exemple Der Spiegel. Ce qui devait être samedi un rassemblement dit anti-corona contre le port du masque et la restriction des libertés individuelles avec son lot d'ésotériques et de conspirationnistes plus ou moins radicaux mais a priori non violents. Ce rassemblement donc s'est très clairement transformé en une manifestation d'extrême droite décomplexée au point de tenter donc d'envahir le Reichstag. Des drapeaux de l'ancien empire allemand partout, des croix celtiques, des chants scandant résistance, pas de doute, confirme Gwenaël Debout. La correspondante du Temps suisse à Berlin, ces manifestants-là étaient des Reichsbürger, littéralement des citoyens du Reich, comme s'autoproclament les membres nostalgiques et complotistes de cette mouvance de l'extrême droite allemande qui, je cite le Temps, a trouvé une nouvelle tribune dans la crise du coronavirus.
Et cette tentative de coup de force remet donc les Allemands face à la menace de leur extrême droite.
Oui, avec un débat qui prend corps sur le dispositif de sécurité adopté samedi devant le Reichstag. Après avoir dimanche loué l'héroïsme des 6 policiers, 6 seulement présents la veille pour défendre le bâtiment, hier lundi, les journaux ont commencé à poser des questions qui fâchent. Comment se fait-il, s'interroge le Berliner Morgenpost, qu'il y ait eu seulement donc 6 policiers déployés face à près de 40 000 manifestants en tout, dont on savait qu'une partie, au moins, viendrait des rangs de l'extrême droite. Faut-il en déduire avec le Morgenpost que la menace d'extrême droite est sous-estimée en Allemagne, que les services de renseignement intérieur n'ont pas été capables d'anticiper la venue des Reichsbürger et des néo-nazis et leur détermination à en découdre? Les réponses à ces questions sont assez accablantes, il faut bien le dire, pour les autorités. Mais tout de même, s'en prendre au Reichstag, c'est clairement un niveau de menace supérieur à ce à quoi les nostalgiques du Grand Reich nous avaient habitués jusque-là. Analyse dans les colonnes du Tagesspiegel, le spécialiste de l'extrême droite allemande Yann Rathieu. Et l'universitaire nous confirme au passage que oui, les flots de théories conspirationnistes charriées par l'époque que nous traversons et plus encore par la crise du coronavirus galvanisent ces mouvements extrémistes. Elles leur ramènent aussi de nouveaux adeptes parmi ces milliers de citoyens désorientés qui convergent depuis des semaines dans les manifestations anti-corona, manifestations que la Neue Zürcher Zeitung décrit comme, je cite, un déversoir de tous les insatisfaits. Alors bien sûr, tempère Oliver Georgi pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, tous les anti-corona ne sont pas des nervis d'extrême droite prêts à marcher sur le Reichstag, mais tout de même, les deux courants s'alimentent l'un l'autre dans une même déréalisation conspirationniste, une même défiance absolue surtout de tout ce que l'État peut proposer. Le vrai danger, il est là pour la démocratie allemande, professe enfin Jörg Köss dans les pages opinion du Morgenpost. Ce qui s'est passé samedi à Berlin, selon lui, nous montre que le pays, l'Allemagne, tient en équilibre très précaire sur l'étroite ligne qui le sépare encore du chaos.
Et puis la presse internationale, Camille, se passionne ce matin pour une affaire de politique intérieure rwandaise.
Oui, c'est assez rare pour être souligné, sauf que cette fois, la politique rwandaise, eh bien, elle se mêle aux lumières d'Hollywood, du cinéma grand public. Alors oui, tous les grands titres à travers le monde, à commencer par le New York Times, se font l'écho, c'est vrai, de l'arrestation par la police rwandaise de Paul Rusesabagina, l'homme qui a inspiré, nous dit-on, le personnage principal du film Hôtel Rwanda, sorti en 2004, un film qui raconte l'histoire vraie, donc d'un directeur d'hôtel Hutu à Kigali, qui a sauvé du génocide plus d'un millier de Tutsi et de Hutu modérés en 1994. Dans le film, Paul Rusesabagina était interprété par l'acteur Don Cheadle, et sa bravoure avait ému la planète entière, mais dans la réalité, dans son pays, le Rwanda, l'homme est pour le moins contesté, euphémise la libre Belgique. Le quotidien bruxellois nous apprend que Rusesabagina, qui vivait en exil entre la Belgique et les États-Unis, était devenu cette dernière décennie l'une des figures les plus emblématiques de l'opposition au président rwandais Paul Kagame. Sur le site d'info Média Congo de RDC, on nous explique qu'il a longtemps refusé la lutte armée contre donc le président rwandais solidement accroché au pouvoir depuis 20 ans. Mais le tournant, ça a été le troisième mandat de Kagame, son refus justement de céder la place, accompagné d'un durcissement de la répression contre l'opposition. À ce moment-là, Paul Rusesa Baguina se serait rangé, selon Média Congo, à l'avis de ceux qui pensaient que, oui, seule la lutte armée permettrait de renverser le chef de l'État. Et c'est justement pour cela qu'il est aujourd'hui emprisonné à Kigali, extradé à la faveur d'un mandat d'arrêt international, poursuivi pour rien de moins que terrorisme, assassinat, kidnapping. Il est accusé d'avoir financé des groupes rebelles armés qui sèment la violence et la mort dans le sud du Rwanda. Oui, le monde entier connaît la part lumineuse du personnage porté au nu par Hollywood, souligne le quotidien rwandais The New Times, mais Paul Rusesa Baguina, le vrai, doit répondre de ce choix de la lutte armée qui a fait des morts parmi les populations civiles, dit le quotidien. C'est à la justice de se prononcer, conclut son édito, sans vraiment nous rassurer, il faut bien le dire, sur le niveau d'indépendance de cette justice rwandaise face aux pressions politiques de la présidence Kagame.